originale, soyez les bienvenus sur France Inter avec Morgane Gadignan, oui, avec Jérémy Crédville, Guillermo Guise, Tanguy Pastureau, bonjour. Daniel Morin.
Bonjour Jérémy.
Et nos invités aujourd'hui sont Mélanie Page et Arthur Junior.
Coucou
you.
Bonjour des Yuyi.
Calamba.
Ils viennent tous deux, Mélanie Page et Arthur Junior, nous parler de Black Comedy, une farce de Peter Schaeffer que vous pouvez voir en ce moment au Théâtre du Splendide. Qu'est-ce qu'on fait, Jérémy, on bricole?
Il est tombé de tout son long. Si vous aviez vu ça, c'était hilarant.
On m'a offert deux casques, j'en ai besoin de 15.
Donc on va parler de cette pièce au Théâtre du Splendide. Alors, si vous êtes très observateur, vous avez remarqué que ce n'est pas Nagui qui parle, que c'est moi. Voilà, vous êtes une belle équipe.
Si douce.
Nagui n'est pas là aujourd'hui pour une simple et bonne raison, c'est que je lui ai demandé de pas venir. Je préfère faire l'interview moi-même de son épouse, Mélanie Page. Ah, je pense qu'ils se voient suffisamment tous les deux.
Ouais.
Quand Nagui est obéissant?
Avec moi,
c'est
tu sais.
Ça, la maîtresse cadeau.
Alors, Black Comedy, notre blind test maintenant, les amis. C'est parti. Premier titre.
Black Velvet. Morgane.
Tanguy.
Ouais.
Non, Morgane d'abord.
Ah, Morgane.
ACDC ?
Bah oui.
Bravo, Morgane.
Bah oui.
Back in Black.
Excuse-moi, j'avais pas entendu.
Ah si, Back in Black, oui, bien sûr.
Oui, mais c'est ton.
Bah
oui.
Bah non, mais...
Là, la conne.
Bah oui. Oh non, pas la conne.
Pas la conne.
La personne de valeur.
Guy.
Premier point.
Amy Winehouse. Back in Black.
Alors
c'est back to black.
C'est back to black.
Et t'as pas le droit de prendre de l'avance comme ça.
Non, parce que sinon ça gâche le jeu un peu.
C'est pas le titre.
C'est pour plus tard.
Ah ouais, mais non, mais non. Titre 2.
Daniel.
Oui.
Chaussette noire.
Bravo. Le titre, tu l'aurais.
Daniela.
Bravo.
Oh, Daniela.
C'était pour toi.
C'est gentil.
Enfin, c'est les journées où il est, Daniela. Oui. Il y a Daniel et Daniela.
Et comment on le reconnaît?
Daniela, c'est le soir.
Ah, c'est le soir.
Mais on se voit.
C'est à 18h.
Quand la nuit tombe, alors ça dépend des saisons.
Elle est belle, cette barbe.
C'est quand il prend les chaussures de notre réalisatrice.
Quand il fait nuit, je suis très belle.
Un point pour Daniel, un point pour Morgane. Troisième titre. Soyez attentifs.
Oui.
Attention.
Jérémy.
Ouais.
C'est pas Angèle ou Damso?
Non.
Ou... C'est pas les démons, je sais pas quoi là.
C'est un truc de jeune en tout cas.
Ouais.
Écoutez la voix tout de suite, à la voix vous allez trouver.
C'est pas pour les darons.
Morgane.
Ouais. Izot. Bravo.
Ah ouais, mais oui. Bien joué.
Izot.
My life.
C'est ce qu'il me reste en poche toute ma life. Le regard des gens.
Yeah.
Toute ma life.
Ah.
Tout est noir.
Yo.
Tout est noir.
Ah.
Dans ma vie,
ouais.
Tout est noir.
Ouais.
Izot, pas mal.
Ouais.
Deux points pour Morgane, un point pour Daniel. Quatrième titre.
Oh, Jamy,
oui.
Black Eyed Peas.
Oui.
Et Don't Funk When My Heart.
Yes.
J'adore cette chanson. Attention.
C'est plus Fergie maintenant.
La laisse.
Je peux être Fergie.
Elle est plus là.
La, 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 don't Funk With My Heart.
Don't Funk With My Heart.
Jamy.
Ah, ça groove.
Ah, ça fait longtemps.
Yeah. Et j'avoue, c'est le premier point inscrit par Jérémy. Je comprends pas, Tanguy.
Ouais.
Guy, nos deux grands spécialistes de la musique.
Il y a pas trop de vieux trucs, quoi.
Ah, il y a pas trop de vieux trucs. Attends.
Ah si, il y avait les chaussettes noires. Quand même.
Bah ouais.
Ah oui.
Ouais.
Guy.
Oh, oui.
Muse.
Bravo.
Super Black Hole, je sais pas quoi. Super Massive Black Hole.
Ouais, c'est exactement ça.
C'est parti d'une équipe avec Guy.
On en est où là?
Alors c'est un peu clair, éparpillé.
Tout le monde a un point.
Morgane en a deux. Et.
Calme-toi.
Et Tanguy.
Calme-toi tout de suite.
Tanguy est aux fraises.
Oui.
C'est pas encore le Super Banco, donc détendez-vous.
Guy.
Ouais.
Black Olson. Soundgarden. Ouais.
Bravo.
Ah oui.
Vous vous souvenez?
Bien sûr, je me souviens, mais je savais pas que c'était.
Ça te dit rien, Tanguy?
Si, ça me dit, mais c'est tellement vieux.
Oh, dis donc.
92.
Mais attends, mais tu trouves des trucs hyper vieux, toi, d'habitude?
Non, mais moi, c'est plus.
Moi, j'attends le.
Noir, c'est noir.
Ouais, moi, j'attendais.
Je suis passé, t'as vu, j'ai pas mis.
Ouais, c'est vrai.
Amy Winehouse. Allez, le petit dernier, c'est le Super Banco, c'est maintenant. On continue à jouer donc autour de Black. Pour accueillir nos invités pour parler de la pièce Black Comedy au Théâtre du Splendide. C'est parti.
2, 3.
Daniel. Oh là,
Daniel.
Je crois que c'est Daniel.
J'en ai pété.
Cathy Tunstall.
Ah, bravo.
Oui. C'est la chemise.
Et c'est une victoire de Daniel Morin. Et on accueille nos invités Mélanie Page et Arthur Junior. Bonjour.
Bonjour.
France Inter, la bande originale. Leïla Kadi.
Soyez les bienvenus tous les deux, on est ravis de vous recevoir. Comment allez-vous, Arthur Junio, Mélanie Page, Arthur Junio?
Bien, hein, fort bien.
Alors, Arthur met son masque.
Alors, Arthur, il enlève le casque.
Il y a beaucoup
d'enfants. Il y a deux écoles dans le studio. Il y a
les... J'ai bu.
Ah oui, d'accord, c'est l'école de on boit pendant toute l'émission. Comme dans le train, d'accord.
Faut parler avec une bouteille près de la bouche.
Voilà, exactement, vous allez mettre votre masque, c'est parfait comme ça. Comment ça va, tous les deux?
Super bien.
Fort bien, merci de nous recevoir.
On est ravis de vous accueillir. J'ai eu la chance de venir vous voir jouer samedi dernier, voilà, au Théâtre du Splendide, lieu mythique. On va avoir l'occasion d'en parler, mais avant ça, parlons plutôt de ce qui se passe sur scène. Et sur scène, c'est vous, c'est de la folie, c'est Black Comedy. Alors, je pense que le concept, on peut en parler de la pièce, parce que c'est ce qui est complètement inattendu. C'est la première fois que je vois une pièce comme ça, qui, en fait, vous demande de jouer de façon complètement contre-intuitive sur tout, je pense, puisque l'histoire prend scène dans un appartement. On rentrera dans le détail après. Il y a une coupure d'électricité dans l'immeuble. Donc, on ne voit plus rien. Sauf que nous, les spectateurs, quand vous êtes censés être plongés dans le noir, on vous voit, et inversement.
Exactement.
C'est-à-dire que quand la lumière revient, on se retrouve, en fait, on se retrouve avec des acteurs sur scène dans la pénombre. En gros.
C'est ça. Oui, en gros, les codes sont inversés.
Est-ce que j'ai bien expliqué?
Guillermo est complètement perdu.
Je suis bien perdu. Il vérifie si c'est encore
moi. Non, mais Guillermo, le problème, c'est que.
Il taquicarde.
Il est comme ça.
Attendez, pas tous en même temps. Le problème, c'est que Guillermo, il y a plein de concepts assez simples. Finalement,
il faut l'arroser deux fois par jour.
C'est pas un bon baromètre, Guillermo, pour ce genre de sujet.
Mais on voit que tout le monde a compris.
Mais je pense que Mélanie va faire l'effort de réexpliquer parce qu'elle est bienveillante.
Non, mais le code lumière est inversé. C'est-à-dire qu'effectivement, la plupart de la grosse partie de la pièce se passe pour les comédiens, enfin les personnages dans noir. Sauf que comme le code lumière est inversé, le public nous voit. Alors en revanche, quand on a à nouveau des petites une petite lampe qui s'allume, un petit briquet, là pour le coup, on est plongé pour les spectateurs dans la pénombre et nous personnages, on voit.
Ok, c'est
inversé. Tu vois, tu as
compris ou pas là? Non, c'est cool, c'est cool.
C'est comme si tu voyais le spectacle avec des lunettes infrarouges.
Ok. Voilà, tu nous vois quand nous on ne voit rien.
Ouais.
Voilà.
Et c'est dingue comme concept.
J'avais compris il y a 40 secondes. Si vous voulez continuer à me faire passer pour un débile mental, n'hésitez pas.
C'est de l'acharnement, Guillaume. Je sais que tu souffres.
Et c'est hyper drôle. C'est complètement novateur. C'est la première fois que je vois une pièce avec ce principe-là. C'est la patte aussi. On peut parler de Peter Schaeffer. Peter Schaeffer, qui est un auteur de théâtre britannique hyper connu, qui a fait un nombre considérable de succès. Alors, c'est lui, notamment. Alors, il a pas fait que de la farce, c'est de la comédie.
Pas du tout, il en a fait très peu d'ailleurs.
C'est ça.
Amadeus, qui est comme...
C'est lui.
Amadeus, Écus, ce sont des pièces.
Amadeus,
plutôt...
donc il a écrit cette pièce qu'il a ensuite adaptée lui-même, réalisée par Miloš Forman. Exactement. Ça lui a valu un Oscar justement de la meilleure adaptation de scénario. Et Écus, pour reparler de cette pièce, alors on a pu en entendre parler quand Daniel Radcliffe
avait repris le rôle parce qu'il se retrouve tout nu à un moment sur scène.
C'est ça, Daniel Radcliffe qui est le héros Harry Potter, bien sûr, qui a voulu à un moment repartir dans le jeu, la comédie, sortir de ce rôle, ça n'a pas dû être simple. Et il choisit Peter Schaeffer, c'est dire la confiance qu'il a accordée à cet auteur et à son talent. Donc voilà, Black Comedy, c'est aussi lui. C'est ce parti pris complètement fou. Une farce qui se joue dans le noir, mais en pleine lumière. C'est un peu la baseline pour... ça ne sert à rien d'essayer de comprendre, il faut aller la voir. Vous
Exactement.
Allez rigoler.
Venez, vous comprendrez tout de
voilà.
suite.
Ça tombe bien. Ça tombe plutôt bien. N'essayez pas de comprendre, ça tombe
mais
bien.
Si,
Allez-y, les gars.
Il y a une mise en scène est signée Grégory
Marco.
Mais quel bon moment vous allez passer.
Non, vous pouvez pas dire ça. Si vous les voyez sur scène comme ils se démènent, parce que ça doit être
forcément, ils cherchent l'interrupteur.
Ça doit être tellement difficile de jouer en pleine lumière, comme s'il faisait noir. Mm-hmm. Le regard. J'étais assez fascinée et assez hypnotisée par votre capacité. Vous ne vous regardez pas, puisque vous n'êtes pas censé vous voir, alors Exactement. Que le plateau est en pleine lumière. Il faut tout désapprendre, finalement. Tout ce qu'on vous a appris dans vos métiers.
Oui, c'est-à-dire que ça a été le gros morceau du travail, c'est qu'on a tellement l'habitude de jouer, de s'écouter, de se regarder, c'est tout d'un coup de dire, ah, il est par là, oui, alors tu sais Mélanie, je suis pas d'accord, d'être à peu près, parce qu'en même temps, si on entend une voix là-bas, il faut pas regarder là, sinon c'est pas crédible.
Faut tourner la tête dans le bon sens.
Il faut être dans la crédibilité, dans la justesse de quelqu'un qui est dans le noir, et en même temps, dans le noir, on voit pas. Donc, tout à coup, on va rentrer dans le micro. Ouais. On va... Donc voilà, c'est d'être crédible tout le temps, et d'amener forcément de la comédie, parce qu'on est dans le noir, donc évidemment, il y a plein d'accidents, il y a plein de gags. Dans l'histoire, on a plein de... C'est un entonnoir d'emmerde qui arrive à ce pauvre personnage qui doit essayer de gérer. Et gérer des problèmes, c'est déjà compliqué, mais les gérer dans le noir...
Alors, l'entonnoir de problèmes, si on pose un peu la situation, c'est l'histoire d'un artiste, raté, Arthur Juniau.
Je ne peux pas laisser dire ça.
Et elle peut d'autant mieux le dire qu'elle incarne votre compagne sur scène.
Oui, alors compagne pour moi, il est
pas raté. Elle n'est pas ratée. Non, alors justement, il y a quelqu'un.
Pour moi, c'est un héros, c'est le prochain Léonard de Vinci, mais bon, il est incompris pour l'instant.
Voilà, un artiste incompris qui espère ce soir-là la visite. Non seulement de son potentiel futur beau-père, votre père, le général Cobra, on va l'appeler un peu comme ça, et puis d'un collectionneur surtout. Il a envie d'impressionner ce collectionneur, il aimerait bien même que ce collectionneur lui achète une de ses œuvres, sauf que le recevoir dans son appartement, c'est pas forcément évident.
C'est ça, oui. Donc il y a ce mécène qui doit arriver. On joue le tout pour le tout. Il faut qu'on vende une de ses œuvres. Ça va faire décoller ma carrière. Mais l'appartement est miteux. Il se trouve que mon voisin est antiquaire et il a des beaux meubles. Donc on va lui emprunter, parce qu'il est parti en week-end, tous ses meubles. Donc, voilà, pour que ce soit un peu cossu.
Le guéridon, les canapés, les fauteuils.
Donc plein de meubles. Avec Carole, donc ma compagne, voilà, on essaie de faire un petit cocoon. Son père, qui est un colonel de l'armée, évidemment, dont on sait tous que voilà, c'est sont des gens très ouverts et très sympathiques. voilà, viens ce soir-là, parce que c'est le seul soir où il peut venir. Mon ex, dont je suis encore amoureux, va aussi débarquer. Mon voisin va arriver de week-end, donc on va devoir déménager tout l'appartement dans le noir.
Voilà, et puis il y a un personnage là-dedans aussi qui va arriver dans
la voisine.
La voisine interprétée par Virginie Lemoine.
Extraordinaire.
C'est la première fois que je la vois dans une partition comique.
Elle est, c'est un vrai clown. C'est extraordinaire ce qu'elle apporte au personnage. Parce qu'il est écrit... En fait, on peut vraiment le prendre de toutes les façons, parce que comme elle dit elle-même, le personnage est inutile. C'est-à-dire qu'elle ne sert vraiment à rien dans l'histoire. Elle est là, mais qu'elle soit là ou pas, finalement, l'histoire serait la même.
Moi, ça fait 4 ans que je suis là.
Et donc, c'est vraiment elle qui apporte toute cette folie. Elle est hyper drôle. Tout ce qu'elle dit fait mouche. C'est vraiment, elle est vraiment dingue.
Ah, si elle sert à quelque chose, je ne peux pas vous laisser dire ça. Elle sert à vider le minibar, quand même.
Ça, c'est vrai.
Voilà, parce que dans le noir, finalement, le goût du jus de tomate ou de la vodka, on peut s'y méprendre.
Exactement, c'est ça, elle s'y méprend pendant toute la pièce, c'est dingue.
Ça t'a parlé, celle-là.
C'est une super partie. Non, elle sait quand elle boit de la vodka.
Et, c'est ça. Et elle est payée pour ça, c'est ça qui est incroyable.
Non, toi, on parle de toi.
Black Comedy sur scène au Théâtre du Splendide avec nos invités Mélanie Page, Arthur Juniau, on a évoqué Virginie Lemoine, on va parler aussi du reste de la distribution. Une farce de Peter Schaeffer, mise en scène par Grégory Barco, c'est à ne pas manquer. C'est à ne pas manquer. Et vous savez qu'on on vous aime ici, Mélanie, vous le savez particulièrement.
On se connaît bien.
Arthur, on est un peu moins
je
proche.
Je t'emmerde, Jérémy.
Voilà.
Je vois que tu sers à quelque chose.
C'est l'amour vache,
en quelque sorte. Sauf qu'ici, autour de cette table, il y a toujours Morgane Cadignan. Et Morgane ne vous aime pas.
Bonjour.
Non, Arthur... cette conviction
dans le contrat,
Arthur Juniau, Mélanie Page, je vous aime pas. Enfin, Mélanie, je vous aime pas, mais pour des raisons évidentes, j'ai envie de prendre soin de vous. Quelqu'un peut apporter une boisson chaude à la femme la plus patiente de France. Pardon, je l'ai déjà dit l'année dernière, mais une sainte, tout bonnement. Après, je plaisante. Hein, je dis pas que c'est compliqué d'être mariée à Nagui, mais respect quand même. Pour moi, il y a des gens, faudrait faire des panthéons une place. Et je blague, évidemment, et je peux faire cette blague sans me faire virer, et ça, quelle liberté. Voilà, la phrase précédente, c'est un petit peu par sécurité. Ouais. Voilà, parce que là, du coup, si je me fais virer pour cette vanne, ça voudra dire que Pascal Praud a raison quand il parle de France Inter. Et est-ce qu'on veut vivre dans un monde où Pascal Praud a raison?
Non.
Vite fait, Arthur Juniau, je pense que vous vous en souvenez pas, mais
bah, bien sûr que si.
C'est vrai.
Bah, évidemment. Enfin.
Mais alors, faut que je vous raconte, si je suis sur cette table, c'est un peu grâce à Arthur Juniau.
Qu'est-ce que tu fous sur la table?
Moi, qu'elle est pas en dessous, ça va.
On a plein de propositions.
Attendez, je redescends de la table.
Voilà. C'est qu'on va parler d'une radio qui est fort aimée chez
chez France Inter.
Si je suis autour de cette table, c'est un peu grâce à Arthur Géniaud, enfin grâce à cause, peu importe. J'ai fait ma toute première chronique radio de ma vie avec Arthur à Avignon l'été 2019, dans une petite cour derrière le théâtre des Béliers d'Avignon, une après-midi où Festival d'Avignon oblige, il faisait environ 7 millions de degrés. Vous m'avez gentiment accueilli alors que j'avais aucune expérience. Après, c'était sur Sud Radio, donc c'est vrai que si je loupais une liaison, c'était pas un grand drame non plus. Allez, petit mépris du jeudi. Ben moi, ça m'aide à tenir jusqu'au week-end. Il y a deux choses qui me dégoûtent dans la vie, c'est la bienveillance et les laitages. Donc un séminaire Michel et Augustin, j'ai envie de crever quoi. Puis après, bah j'ai pris goût moi à la radio, mais et comme je suis pas foutue d'être mesurée, maintenant je fais ça, mais absolument tous les jours. Donc faites attention à ce que vous faites en fait. À un moment, on ouvre gentiment la porte de son émission à des petits jeunes, et trois ans plus tard, le virus a muté, on a un truc incontrôlable qui se nourrit des impôts des Français. Donc Mélanie, Arthur, vous venez aujourd'hui nous parler de Black Comedy. La pièce, c'est l'histoire d'une soirée dans laquelle un artiste espère rencontrer un acheteur. Soirée qui, à la suite d'une coupure de courant, va se dérouler complètement dans le noir. Et ça se tente de vivre complètement dans le noir, titre raciste. C'est peut-être même mieux. Franchement, moi, parfois, j'en pouvais plus de mon ex. J'allais péter un fusible dans la cuisine. Hop, soirée à la bougie. Il était déjà beaucoup plus supportable quand je le voyais qu'à moitié. Les gars, les couples heureux sont majoritairement des gens atteints de myopie. T'es un peu aveugle toi-même. Tu te fous avec un mec un peu sourd. Eh, t'arrives aux noces de diamant en petite foulée, quoi. C'est génial comme concept, une soirée dans le noir. Je parle pour la pièce de théâtre, hein. Parce que dans la vie, c'est nul. Le restaurant dans le noir qui reste la plus grande douille de l'histoire de l'humanité. Je sais pas s'il y en a qui ont tenté ici la bouffe, mais c'est à se demander si en cuisine ils ont la lumière. En salle, t'es plongé dans le noir. Du coup, pour compenser, tu hurles ta race pour discuter. Puis après, dans le noir, ça devient le festival de toutes les lourdeurs. Et vas-y, que c'est le pain, ça. Ah non, c'est mon sein. Pardon, Lila. Quelqu'un peut me passer la bouteille? Ah non, c'est ma bite. Très drôle, Guillermo. Et honnêtement, si Jérémy Crédville, il a deux mômes, c'est juste parce qu'on n'allume plus la lumière au déjeuner d'équipe, hein. Après, la plus-value, c'est nous qui sommes lourds. Parce que la vraie plus-value des restos, c'est que les serveurs sont eux-mêmes aveugles. Donc, c'est juste génial comme conseil pour l'inclusion. Ça leur fait plein de taf. Après, les gens non-voyants peuvent faire plein d'autres métiers. Regardez le styliste de Mika. Il s'en sort. Le coiffeur de Nicolas Sirkis, pareil, tout va bien. Donc allez voir Black Comedy, la pièce se déroule dans le noir, mais ouvrez bien les yeux, il y a plein de talents à regarder.
Bravo Morgane Cadignan.
Et Morgane, après-demain samedi, à Cournon d'Auvergne, à la Baie des Singes, c'est bien ça?
Tout à fait.
Et c'est en effet ça, Black Comedy, c'est une pièce où le spectateur voit tout ce qu'il n'est pas censé voir. Et il en a bien de la chance, ça c'est dans le pitch, un petit peu dans l'argument pour parler de cette pièce Black Comedy. Tout à l'heure, vous disiez, Arthur, qu'il faut tout repenser, jouer différemment finalement. Comment est-ce qu'on fait semblant aussi de percuter des objets alors qu'ils sont là? On les voit, vous les voyez, et en ayant, quand on vous voit sur scène, ça a l'air complètement naturel, comme si vraiment la maladresse, elle était naturelle.
Bah, en fait, non, ça fait mal.
C'est vrai qu'on a quelques bleus. Non, mais c'est justement, c'est chorégraphié. C'est-à-dire que pour arriver à faire des accidents, il faut au contraire que ce soit très travaillé, qu'on les fait encore, et que ce soit très précis. Pour arriver à faire quelque chose qui semble naturel, il faut en fait l'avoir fait des centaines de fois.
Ça doit être un travail de préparation fou. Comment vous avez préparé ces rôles, justement?
En se faisant mal.
Alors ça, on sent qu'il y a de la
douleur. Il est très douillet, Arthur, très douillet.
C'est un homme.
Oui. Exactement.
C'est parti. Ça a tenu 20 minutes.
Je l'ai dit à haute voix, ça m'étonne.
Non, c'est pas toi.
Non, c'est pas exactement ça.
Dis quelque chose, Guillermo.
J'ai lu que vous aviez fait quelques séances, par exemple, avec des masques sur les yeux. Parce que le corps, naturellement, si, je ne sais pas, on a tendance, par exemple, à fermer les yeux quand il y a de l'eau, une source de chaleur, quelque chose, c'est un réflexe.
Oui.
Donc ces séances-là, c'était une façon aussi quoi de faire en sorte que le corps soit entraîné vers quelque chose qu'il ne voit pas et d'essayer de le reproduire ensuite dans le mouvement quand vous parliez de chorégraphie.
Ouais, c'est déjà de comprendre comment son corps réagit au noir. Il y a des gens qui hurlent, il y a d'autres gens au contraire qui chuchotent pour essayer d'avoir le... Qu'est-ce qui se passe?
Comment vous avez réagi, vous?
Alors, chacun a réagi différemment au niveau corporel. Ouais. Virginie s'est retrouvée à quatre pattes. mais véridique, hein. Voilà, je suis désolée.
Mélanie, par exemple, regarde en l'air.
Oui, moi, je regarde en l'air. Il y en a d'autres qui regardent par terre. Enfin, qui regardent, entre guillemets, mais qui ont la tête vers le sol.
En fait, c'est la concentration. Comme il y en a qui cherchent une histoire en disant, tiens, je...
Là, vraiment, Mélanie, il y a un truc de... où je suis.
Ouais, moi, j'ai pas pour toi. Ouais,
je... Alors, moi, je suis plus terre-à-terre, voilà.
Ouais, c'est ça. Mais voilà, mais moi, je suis dans
évidemment,
le ciel,
évidemment.
C'est l'étoile.
Mais, évidemment, c'est un petit papillon.
Voilà, merci beaucoup.
C'est une ça, sorte c'est de Colin Maillard cosmique, quoi, avec Mélanie Page, quoi, tout de suite, voilà.
Mais c'est vraiment le meilleur résumé de notre aventure.
Ah, merci.
Pour cette pièce chorale, je n'ai pas évoqué encore Rémi Roubaka, Bertrand Degrémont, Anouk Vial, Laurent Richard, ainsi que Virginie Lemoine, et vous, Arthur Junio et Mélanie Page. C'est aussi un texte britannique, oui. Donc on est encore sur un auteur, un humour aussi différent.
Oui.
Alors ça, c'est aussi. Est-ce que c'est si difficile ou si différent à jouer que
à traduire.
Les textes ouais. Déjà, ouais. Il y a eu le travail d'adaptation et de traduction, ouais. J'imagine.
Exactement, oui. Et puis on a pas mal retravaillé.
En plus, donc on a gardé un style vestimentaire, de décor, d'époque. Il n'y a pas de portable. Il y a beaucoup de pièces, surtout des pièces catastrophes qui se passent avant les années 80. C'est beaucoup plus simple parce que aujourd'hui, on prend un portable, il n'y a plus de pièces.
C'est donc, vrai. Tout est résolu.
Ouais, bon, c'est fait. Bon, voilà. La pièce dure 7 secondes.
Qu'est-ce que ça change que ce soit un auteur britannique ? Est-ce que vous le sentez ou pas ?
Oui. Enfin, je trouve que l'humour anglais est plus... Alors, c'est pas parce que je suis anglaise, hein. Je trouve qu'il est plus riche, plus fin. Il y a plusieurs strates, en fait. Il y a plusieurs niveaux de lecture.
Il y a
pas mal d'ironie de second
aussi.
Degré. Comment ?
Il y a de l'autodérision.
Il y a beaucoup d'autodérision.
Qu'il n'y a pas du tout ici.
Ouais,
très,
c'est
très
vrai.
Peu.
Ouais. Les Français sont peut-être quand même un petit peu plus premier degré dans leur humour.
Enfin, tout petit peu.
Un petit peu, voilà. Et il y a une folie. En fait, il n'y a pas de limite dans l'humour anglais. Il y a une liberté folle. Même dans les années 60, enfin, et ça, c'est vrai que c'est... Enfin, moi, c'est ce que je préfère, c'est ce qui me fait rire le plus. Mais les Monty Python, tout ça, il n'y a pas en France, quoi, ça n'existe pas.
Et ça doit être un terrain de jeu formidable.
Bah, bien sûr, c'est un plaisir fou.
Tout à fait.
Petite musique, comme ça, parce qu'il y a de la musique dans cette pièce. Et ça.
On rit beaucoup avec Arthur avant de commencer sur cette musique.
Ça vous met dans l'ambiance ?
Ouais.
Ah, il y est là, Arthur.
C'est dommage que ce soit une émission radio.
Ouais, c'est dommage. Ouais, parce que vraiment, mon corps.
Il est dans une corée là.
Je commence. Voilà.
On est presque dans une transe là.
Ouais, c'est ça.
Je deviens anglais.
On sent qu'il se libère, tout ça. Parce que la complicité entre vos deux personnages, elle est essentielle dans cette pièce, puisque on l'a dit, il y a cet artiste qui espère que sa carrière va décoller grâce à une vente, à un riche collectionneur, qui va bien finir par pointer le bout de son nez. On l'espère, en tout cas, dans cet appartement complètement reconstitué pour donner le change, donner la sensation que on n'est pas complètement dans la misère non plus. Complètement pimpé, avec le soutien de votre personnage, Mélanie Page, qui croit dur comme fer au talent de l'être aimé.
Ah oui, pour moi, il n'y a aucun doute.
C'est une amoureuse. Très aveuglée par l'amour.
C'est une amoureuse, absolument, et qui est vraiment sa complice. Sauf que, vraisemblablement, l'artiste a une petite longueur d'avance. Il y a des choses qu'il sait que vous ne savez pas encore.
Ah, je vais en découvrir quelques-unes.
Voilà.
Pendant la pièce,
il vous fait, il va vous en faire voir de toutes les couleurs.
Bah, un vrai couple, quoi.
Et puis, pardon.
Non, mais... accéléré.
C'est ça. Et puis, vous avez une dimension comique supplémentaire, vous, Mélanie Page, parce que vous êtes le personnage féminin qui s'en prend le plus dans la gueule, en fait.
Ça, c'est vrai.
C'est
je finis pas dans le même état qu'au début.
C'est ça. Donc,
dans le jeu. Je commence toute proprette et à la fin, c'est pas la même.
C'est celle qui prend peut-être le plus cher dans la distribution.
Et pourtant, moi, je ne me plains pas.
Absolument. Absolument. En tout cas, s'éviter comme ça, dans le noir, et avoir en même temps le récit, la pièce qui avance, les personnages qui évoluent, la dramaturgie aussi qui grandit avec ces situations inextricables, ça ne s'arrête jamais en fait dans cette pièce, Arthur Junio.
Oui, bah c'est, enfin, on parlait des comédies anglaises, mais c'est une comédie à tiroir, il y a des comédies de vannes, là c'est une comédie de situation, et chaque nouveau personnage qui rentre, on essaie de sur scène, crée des nouvelles situations qui vont de plus en plus embourber ce personnage dans la catastrophe atomique, avec Carole qui essaye de sauver, de faire ce qu'elle peut. Et donc, ce qui est très jouissif dans cette construction-là, c'est qu'on se dit, tiens, ah, ça, c'est en train d'arriver. Ah, ça veut dire que ça va être encore pire. Et on voit arriver la catastrophe de chaque nouvelle entrée de personnage. Je dis, ah, mais comment il va s'en sortir? Donc, c'est là où cette dramaturgie-là, elle est très jouissive parce que, en tant que spectateur, on voit un petit peu arriver et en même temps, on est surpris par ce qu'on attend.
Et il y a un plaisir, j'ai la sensation aussi supplémentaire, c'est qu'au-delà du texte, le mouvement en fait, et aussi que vous parlez de comique de situation, est vraiment générateur de rire.
Oui.
C'est ça en plus à jouer en fait.
Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui ne se sont pas dites. En fait, c'est tout simplement très visuel.
Ouais.
Donc il y a et le texte qui est bien écrit, mais il y a tout ce qui se passe sur scène et tout ce qu'on voit et que nous ne voyons pas en tant que personnage.
C'est ça.
Et ça y est, c'est reparti, on va rien comprendre.
Mais c'est génial. C'est vraiment génial. Ça amène une dimension supplémentaire en fait dans le rire.
Oui, et dans les quiproquos et dans notre.
Il y a des accidents parce qu'ils sont dans le noir. Il y a aussi chaque personnage qui dans le noir se permet des choses qui se permettraient pas.
Voilà. Voilà, des libertés, lumière. Des libertés.
C'est ça.
C'est ça. Qu'est-ce qu'on fait quand la lumière s'éteint? Est-ce que ça ne serait pas là que les masques tombent?
Mais
qu'on se rend compte, celui qui est le plus dégoûtant
de tous.
C'est
l'allégorie de la vie. Regardez, maintenant, anonymement, sur Internet, tout le monde se permet de dire des choses absolument ignobles. Il ne se permettrait jamais de dire ça face à quelqu'un, en lumière.
C'est vrai.
C'est une allégorie des réseaux sociaux.
Mais c'est ça. Voilà.
Peter Schaeffer ne le savait pas.
Eh ben, c'est Black Comedy. C'est au théâtre du Splendide. On peut vous y voir à partir du mercredi.
Oui, du mercredi au dimanche.
Au dimanche, avec une joyeuse troupe de fois le samedi, ça doit être assez éprouvant vu ce que j'ai la représentation à laquelle j'ai pu assister. On va parler aussi des petits fous rires ou des petits moments inattendus parce que ça, c'est la joie du spectacle vivant, bien entendu. Mais tout de suite dans la bande originale, c'est Guillermo Guy, s'il vous plaît.
Absolument.
Bonjour.
Ça va les amigos?
Oui. Yes.
Ouais.
Le jour, j'étais en train de lire Causeur au calme dans mon mirador.
Ouais.
Je fais ça toujours semaine la surveillance. C'est une poire pour la soif. En plus, on croit toujours que c'est loin, Vichy, mais en intercité, c'est même pas 3 heures. C'est vrai que c'est important de lire ce magazine pour moi parce que j'essaie de m'intégrer. En France, quoi, d'après les sondages, un Français sur trois vote à l'extrême droite, quand même. Ça veut dire que dans le studio, secrètement, il y a deux personnes qui rêvent que je retourne en Belgique, quoi. Vraiment. Et je dis secrètement parce que Leïla, elle prend plus de gants, quoi. À chaque fois que je rentre dans le bureau, elle fait, on est chez nous! C'est ce qui a l'air d'embêter Causeur, et on est trop. Il y avait un article intitulé France Inter donne asile aux humoristes belges. Et j'avoue, en un an, on est passé de 3 à 6 Belges sur France Inter. C'est plus 100%. C'est-à-dire, on se propage comme des Greenlings qui auraient Omicron, quoi, vraiment. Et la question, est-ce qu'elle tient à la route cette image? La réponse, ça sonnait bien. D'après l'auteur, notre point commun, c'est qu'on serait tous de gauche, le cœur sous la main, arrogant, moralisateur, payé par les impôts des Français, et surtout pas drôle. J'ai lu ça, j'étais là. Putain, il a raison. Il a raison! Ah, oh, le salaud, bien joué. Allez, sur le fait qu'on n'est pas drôle, jusqu'il n'y a pas si longtemps, j'aurais dit ça se discute, mais entre temps, il y a Fanny Ruet qui a débarqué. Et c'est vrai que Fanny, quelque part, elle est lumineuse pour une ambassadrice de la mort. Oh. Mais je veux dire, drôle, stricto sensu. C'est moi.
Mon sensu! Sensu! Et pourtant, tu l'as répété, celui-là.
Tu vois que t'es drôle.
Il parle pas de Fanny, d'ailleurs, dans l'article, ni de Florence Mendez. Je sais pas si l'auteur est au courant qu'elles sont à l'antenne, quoi. J'ai envoyé une lettre anonyme pour les dénoncer. J'ai dit, va kiffer le procédé, tu vois, ça va lui rappeler sa guerre préférée. J'ai écrit Florence Mendez, non seulement elle est belge, mais en plus elle est musulmane. Putain, juste pour qu'il rappelle la rédaction, en disant j'ai un update de ma boule, je te fais de moi 9 paragraphes en plus. En fait, il clash beaucoup mon ami Laurence Bibot dans le truc, et sur moi, il dit juste que je cite, j'ai trouvé refuge chez Nagui. J'étais là, bah, c'est mal connaître Nagui, hein, tu vois. Il y a personne qui trouve refuge chez Nagui. Son épouse, elle est avec nous ce matin, elle le sait, elle est obligée de vivre dans une dépendance, vraiment. Chez Nagui, tu trouves pas refuge, tu payes une dîme comme tout le monde, et t'as droit à 3 minutes par semaine, vite fait, quoi, point barre. Et ils sont tendus à l'extrême droite en ce moment sur France Inter, vous avez vu? Vous avez entendu Zemmour à la matinale, il a dit vous êtes des représentants de la pensée de gauche, tous les Français le savent, tous les Français le disent. Et eux, j'étais là, oh, c'est même pas vrai. Moi, j'étais là, bah, bien sûr que c'est vrai. C'est sérieux, quoi. On peut faire semblant qu'Inter penche pas à gauche, quand même. Ça fait 6 ans que je suis ici. Je crois que j'ai écrit et entendu toutes les blagues possibles et imaginables à base de bobos, d'islamo-gauchisme, de potager. Il doit rester une vanne originale à faire sur le sujet. Il la cherche en laboratoire au CNRS, tu vois. En vrai, faudrait peut-être plus d'humoristes d'extrême droite à l'antenne. Mais bon, Tanguy Pastureau, il fait déjà 6 chroniques par semaine. Vraiment, le corps lâche, on veut pas un burn-out pour Tanguy. C'est vrai que Zemmour, il veut privatiser Inter. Il a dit à Salamé, Nicolas Demorand, les Français n'ont pas à payer pour une radio orientée politiquement. Moi, je me demande à quoi elle ressemble la grille rêvée pour Zemmour, tu vois. Genre le 7-9 des pros, Boomerang des pros, la bande originale des pros, tu vois. France Inter, il est 9h, il y a encore trop d'étrangers en France. Vraiment, et je comprends. Franchement, je comprends sincèrement que ça puisse frustrer quand t'es d'extrême droite ou même de droite de savoir que ton argent, il finance une radio globalement radicalement progressiste, quoi. Je peux comprendre ça. Pourquoi pas privatiser France Inter parce que c'est trop à gauche. Mais alors, faut privatiser la police aussi, quoi. Tu vois, pour équilibrer. Ah ouais, la police, personne n'aura jamais dit vous êtes représentant de la pensée de gauche. Ça se saurait quand même, tu vois. Il y a 750 journalistes dans la maison, on devrait avoir 30 humoristes. Il y a 150 000 flics qui trouvent le rapport de force. Ça va encore, non, franchement. Et je parle même pas de l'armée, quoi. Tu vois, et tous les flics sont pas à l'extrême droite. Ce serait malhonnête de dire ça. Mais tous les gens qui officient sur France Inter, ils sont pas woke, tu vois. Daniel, tu le lances sur les colonies, c'est Michel Sardou, hein, vraiment.
C'est vrai.
Hey, l'autre fois, il m'a dit, c'est nous qu'on leur a apporté les aqueducs. Vraiment, tu vois. Hey, sa barbe, c'est pas un hommage à Fidel Castro, je te le dis. Hein. Et Zemmour, il disait qu'Inter, c'est de la propagande woke. Mais tu crois vraiment que les jeunes woke, France Inter, c'est un phare dans la nuit pour eux, franchement. Tu crois que dans une université de France, quelqu'un se dit, il faut vraiment que je lise Bourdieu et que j'écoute le téléphone sonne. Personne. Hein. Et il a dit quoi, Dominique Seux, sur l'intersectionnalité? Mais non, franchement, non. Je sais pas comment il prendrait Zemmour si on inversait les penchants idéologiques entre Radio France et la police, tu vois. Genre 7h57 dans la matinale chronique de Jean Roucas, mais dans la rue, plus jamais de contrôle aux faciès. C'est stylé, comme tu vois, pour voir. De toute façon, la neutralité, ça n'existe pas en journalisme ni en humour. L'important, c'est l'honnêteté intellectuelle. Et ça, je peux vous dire, moi, j'en ai aucune. Allez, bonne émission.
Et stricto sensu.
Sans sous. J'ai dit quoi, sans sous?
T'as dit sans sous?
Il faut dire quoi?
Sans sous. Non, t'as dit sans sous.
Moi, j'ai stricto sensu, mais c'est toi qui m'as dit sans sous.
Non, pas sans sous. Je t'ai pas dit sans sous, enfin.
Je suis ridicule devant toute la France. Une nouvelle fois.
C'est pas grave.
En tout cas, tu seras ridicule devant le public de la Renaissance. Tout le mois de juin. Quel bel endroit.
Eh ben oui, on peut en parler avec vous, Arthur. Puisque.
Nous avons une histoire commune de praline.
Alors, dites-nous tout, parce que vous avez des histoires avec tout le monde, en fait, ici, dans cette bande originale.
Oui, écoutez, je.
C'est un théâtre où on est très bien reçu. En tout cas, c'est ça que je voulais dire, parce qu'il y a notamment
un fauteuil
massage formidable dans lequel tous les artistes qui y passent peuvent faire des massages.
À la Renaissance, nous avons un fauteuil maçon.
Vous êtes à la tête de la Renaissance, je co-dirige avec
Morgan Schmicker, la tête de la Renaissance. Et on a découvert, j'en profite pour faire de la pub, une toute petite boutique d'un petit artisan qui s'appelle Fifi la Praline, qui fait lui-même ses pralines caramélisées, etc., avec des noix de macadamia, des amandes, etc. C'est juste à côté, rue Taylor, Fifi la Praline. Je n'ai pas d'action, mais allez-y, c'est sublime. Et il se trouve que Guillermo, voilà, on a offert pour son magnifique spectacle, pour le remercier d'être venu, un petit co.
Ça va mieux mon diabète, en tout cas. Ouais. Merci.
Alors, vous faites un tour chez Fifi la Praline et après vous allez au Splendide parce que tout c'est à juste fait. À côté, hein. Théâtre du Splendide.
J'ai eu un petit sachet, c'est très bon, ces pralines.
C'est un lieu mythique, le Théâtre du Splendide. Quand même.
Oui.
Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous a fait la première fois que vous êtes allé jouer là-bas, Mélanie Page?
En fait, déjà, quand on rentre dans le couloir, il y a un mur avec les mains de toute la bande du Splendide. Il y a même ta petite main, t'étais enfant, c'est trop mignon.
C'est vrai?
Ouais.
C'est un moulage.
Il n'y a pas les vrais mains.
Ils sont tous accrochés là, en fait.
Ouais, c'est joli, mais c'est un peu glauque. Hein.
J'ai l'image.
Il y a un petit Hall of Fame où il y a le Splendide. Il y a aussi Patrick Devers. Enfin, il y avait tous les copains de l'époque quand ils ont construit la salle en 80. Ils avaient tous, voilà.
C'est
et
ça,
moi,
c'est
j'avais
dans l'entrée.
Un an et donc mon père a mis ma main dans le. Donc il y a la main de mon père, la main de ma mère et il y a ma petite main au milieu.
Le retour était évident pour vous dans cette salle-là. Parce que non seulement, bon, pour vous, Mélanie, il y a le mythe du Splendide, j'imagine.
Tellement, j'ai baigné là-dedans, enfant. Je connais les bronzés par cœur. Comme tout le monde, je crois.
Mais t'es un petit musée, c'est assez rigolo parce qu'il y a des vieilles photos dans l'entrée, les loges.
Alors dans les loges, alors là, carrément.
On devrait faire visiter les loges. Toutes les vieilles affiches, il y a une vieille moto de Patrick Devers, il y a des trucs, il y a des accessoires de nuit d'hiver. C'est un foutra assez chouette.
C'est rue du Faubourg Saint-Martin pour ceux qui se demandent.
Au 48.
Au 48, où se trouve le Théâtre du Splendide où vous pouvez aller applaudir Mélanie Page et Arthur Juniaux, notamment dans cette pièce chorale signée Peter Schaeffer, Black Comedy. C'est un bonheur de vous voir tous les deux, de vous avoir ici. On va poursuivre ensemble et se plonger dans les années de vos vies en musique, la bande originale, ça tombe bien. Et on commence en 99 avec vous, Mélanie Page.
Date de naissance.
Date de naissance, oui.
Nathalie Brouillière.
Pourquoi cette musique?
Je l'ai écoutée en boucle, comme beaucoup de gens, hein, c'était un tube énorme, et je la trouvais tellement belle. Donc c'était à la fois sa voix, la chanson, et elle, j'étais fascinée, je regardais le clip avec ses longs cils, ses yeux bleus.
C'est vrai qu'elle était d'une beauté spectaculaire.
Très naturelle.
Ah, Daniel, il y a un petit béguin de Daniel Morin.
Tous.
Tous. Allez, tous.
Ça me redonne Nathalie Mouzet.
Tous, 99, Mélanie Page, vous faites vos débuts au cinéma dans Jeanne d'Arc. Avant ça, vous aviez joué dans plusieurs courts-métrages qui vous ont permis de rencontrer des metteurs en scène. Notamment Antoine Decaune.
Exactement, oui. On avait fait un petit court-métrage pour Canal+, qui s'appelait 6 minutes avant le 20h.
Ouais.
Et en fait, c'était très drôle parce que le concept, c'était qu'à chaque plan, il y a un faux raccord. Et alors, au début, c'était des petits faux raccords qui se voyaient pas trop, une mèche pas du même côté. Et après, ça devenait complètement dingue. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la même robe, des perruques.
C'est génial comme concept.
C'était hyper drôle. Ouais, ouais.
Et vous décrochez votre premier rôle au cinéma sous la houlette de Luc Besson dans le film Jeanne d'Arc.
Ouais, on est un petit rôle.
99, ouais, mais c'est
un... Avec John Malkovich quand même.
Bon, partager un plateau de cinéma pour la première fois avec John Malkovich.
D'autant qu'il était pratiquement à poil dans un bain.
Ah, donc ça, c'est
ça
jamais,
rajoute.
C'est jamais.
Vous
c'est
jouiez, jamais. Vous jouiez le bain.
Voilà, je faisais l'eau.
Le savon, tu faisais le savon.
Je l'ai caressé.
Voilà, dis donc, ça y est, on s'emballe. Doucement, doucement, Mélanie, moi je.
Je te trouble, Leïla.
C'est ça, c'est ça, c'est ça. Dans la même année.
C'est moi qui suis assis à côté, calmez-vous.
Arthur Junior, vous vous écoutiez.
Moi je plante mon âme tout en haut d'une branche.
Ouais, bon, ouais,
qu'est-ce qu'il était beau aussi. Mais oui. Avec ses longs cils. Ouais.
Son bandana, c'est ça.
Renaud, la pêche à la ligne. Ouais. Pourquoi ce titre en particulier de Renaud? Parce que c'est pas la plus connue, en effet. Ouais.
Ouais, bah parce que c'est pour moi la plus belle. Mais j'ai écouté en boucle, Mais moi, je suis pas, j'écoute pas beaucoup de musique.
Ah bon.
Et non, je suis pas voilà un grand. Voilà. Et Renaud m'a toujours ému profondément. Je trouve que ces chansons me transportent et voilà. Donc d'écouter.
C'est 15 secondes, j'ai déjà les poils. Celle-là est très belle. C'est sur la fragilité des hommes et tout, alors que lui est un peu flambeur sur les autres.
Exactement. Ouais. Et je trouve que tout ce qu'il dit est sublimement raconté et avec un fond magnifique. Donc voilà, j'en profite.
Voilà, c'est bien de se faire plaisir. Et on vous retrouve, vous, en 99, Arthur Junior, à la mise en scène de la pièce King Kong Palace pour le Festival de théâtre de Loris. Vous souriez comme ça parce que c'est quoi? C'est
non,
loin
c'est loin. J'étais encore en cours de théâtre et c'était ma première mise en scène.
Ouais, vous aviez envie de mettre en scène.
Ouais. Bah, c'est venu très vite. J'étais en cours de théâtre et déjà, je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'étais en cours, il y avait Sébastien Castro qui était dans l'hôtel. Et lui, il avait un an de plus et il avait monté sa compagnie et il montait des trucs. J'ai dit, mais en fait, on peut faire ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est vraiment lui qui. J'ai dit, mais attends, je vais faire pareil. Et donc, j'étais en cours que déjà, on avait loué une camionnette, on partait en Angoulême, on montait des trucs. Enfin, j'ai toujours été dans ce côté entreprendre de monter des projets. C'est un truc qui m'a toujours.
Et à quoi ça tient, justement? D'où ça vient? Est-ce que vous l'expliquez, ça? Parce qu'il y a plein de gens comme ça qui adorent jouer, mais la perspective de prendre en charge, parce que c'est, on le sait, c'est du boulot, mais c'est aussi dans le relationnel, humainement, de choisir des partenaires, de faire en sorte d'être une sorte de force qui va, comme ça, qui entraîne tout le monde à sa suite.
Ouais, alors après, bon, moi, tout mon parcours n'a été que ça, en fait. Mais j'ai commencé comme comédien, et puis maintenant, je gère 4 théâtres, mais au départ, un envie de liberté, de pouvoir monter les spectacles que j'ai envie de monter, etc. Donc, quand on a 19 ans et qu'on est en cours de théâtre, on ne nous propose pas des rôles extraordinaires, a priori. Donc, on les lit, on les écrit, puis après, il faut les monter. Mmh. On crée une compagnie, puis après, on trouve un café de théâtre, et puis après, on joue, et puis après, on se viande, et puis après, on en monte une autre, etc. Mmh. Et petit à petit, on construit un réseau. Après, on se dit, en fait, une compagnie, c'est bien, mais en fait... On va monter une société de production, et puis après on va tourner nos spectacles, et puis après on a l'opportunité d'acheter un théâtre, et puis après un deuxième. Et puis
ce serait pas de l'instabilité.
Au départ, ça vient d'une envie de liberté artistique, étonnamment, de devenir un entrepreneur.
Ouais, est-ce que c'est une façon aussi de. On parlait du Splendide, de la tradition, du fait que tout le monde connaisse la troupe du Splendide et que tout le monde connaisse aussi votre ascendance, que porter le nom de Junior aussi quand on est un jeune comédien. On parle toujours des.
On parle toujours de votre maman, Thierry Lhermitte.
On parle toujours des avantages que ça peut avoir d'être né dans une famille ou dans un univers où une certaine notoriété sont associées. On parle moins des difficultés.
Oui, mais parce
sans se plaindre de façon indécente.
Il n'y a pas de difficulté, c'est un accélérateur de tout. Donc les gens se souviennent de vous, parce que moi je croise parfois des gens qui me disent « Ah, mais on était en colo en 94 !»
Et pendant deux jours, à Serre Chevalier, je dis ah d'accord, c'est impossible qu'ils se souviennent de moi, mais parce que il y a le nom de famille, donc ça, voilà, on se souvient. Donc les gens se souviennent de vous. Donc ça va plus vite dans le bon sens comme dans le mauvais. Donc faut essayer de pas trop merder. Après c'est malgré tout évidemment beaucoup plus positif. Quand on a un nom comme le mien qui est plutôt
associé à quelque chose de très positif,
de sympathique, c'est sûr que si on s'appelle
Je pense qu'on a tous pensé à la
surtout
chose.
Pendant les présidentielles.
Voilà. On va passer à l'année 2000 avec vous, Mélanie. Vous écoutiez. Gorillaz, Mélanie Page, pourquoi cette musique pour illustrer le début des années 2000?
Alors, pour tout vous dire, je l'ai beaucoup écoutée avec celui qui allait devenir mon mari, et on s'est rencontrés en 2000. Et voilà, donc en fait c'est vraiment pour moi ce souvenir et raccroché à l'année de rencontre...
Avec votre cher étendre, que nous embrassons. Que nous embrassons. Eh oui, il faut se renseigner un petit peu, Arthur.
Il
faut faire un effort.
Et on adorait cette chanson, quoi. Elle est extraordinaire.
Il n'y a pas que les pralines, hein, vraiment.
Pourtant, j'essaie de la pécho à coup de pralines.
J'ai eu Guillermo, mais ça marche pas.
Et à cette époque,
sur le fauteuil,
vous, Mélanie Page, on vous retrouve au Théâtre Marigny, dans la pièce Huis clos, mise en scène. Et interprété aussi à vos côtés par Robert Hossein.
Ah, quel souvenir.
Monstre sacré aussi.
Mon Dieu, que j'ai adoré travailler avec cet homme. oui, il était extraordinaire.
Comment s'est passée votre rencontre? Parce que
par audition.
Ouais.
Oh la vache, j'en ai fait des auditions pour ce rôle. Je crois que j'ai auditionné 7 fois en tout. Et on était, je sais pas, 70 au début, puis de moins en moins. À la fin, on était 2.
Ouais.
Il avait vraiment pas envie de se tromper, mais c'était extraordinaire. J'ai tellement appris à ses côtés. Il y avait aussi Natacha Hamal avec nous, Yves Lemoigne qui faisait le garçon. Et on est parti en tournée et quoi de mieux pour rencontrer et connaître des gens que de partir en tournée avec eux. Ah, j'ai découvert cet homme extraordinaire. Non mais
vous allez partir en tournée pour Black Comedy.
Oui, normalement donc ça devrait se faire.
Vous allez être bien sûr de bien vous connaître, quoi. C'est ça que
ça
vous voulez dire.
Sûr.
Ouais, c'est ça. Et cette collaboration, avec Robert Hossein, elle va se poursuivre. C'est pas juste pour Huis clos et c'est quand même un signe là dans l'entente et dans l'envie de travailler ensemble.
Ah complètement. Oui, je crois qu'on s'est je veux pas dire on s'est trouvé, mais quelque part artistiquement et humainement, on s'est vraiment beaucoup apprécié. Et en fait, c'est quelqu'un qu'il fallait comprendre, c'est-à-dire il fallait accepter ses petits coups de sang, ses petits coups de d'humeur, parce qu'il y avait toujours beaucoup d'humour en fait derrière. Et si on trouvait ça drôle, ça désamorçait tout de suite. Et il était plein de mauvaise foi quand on jouait aux cartes, il refaisait les règles au fur et à mesure. En fait, c'était un bonheur.
Moi, j'ai une petite anecdote sur Robert Hossein, assez rigolo, parce que j'étais en cours de théâtre et à l'époque, il avait monté Celui qui a dit non au Palais des Congrès.
Avec le principe de voter aussi, de faire participer le public, parce qu'il avait développé ça,
je
ce côté
pas,
un peu.
Non, pas sur celui-là, mais il a fait plusieurs...
Oui, il a fait plein de concepts. Et il y avait beaucoup de figurants à l'époque, et donc il prenait des élèves de cours avec des stages conventionnés, d'escroquerie de production. et donc il y avait 20 mômes qui étaient dans mon cours de théâtre, qui jouaient tous les soirs dans ce week-end, non. Payé, je crois, 40 francs par jour. Enfin, voilà. Et un jour, j'ai un de mes camarades qui était sur le spectacle, qui me dit, oh, écoute, j'ai un court-métrage à faire... vraiment, je suis dans la merde, mais je tourne. Viens avec moi ce soir au Palais des Congrès. Et je dis, ah bon, viens avec moi. Ah, mais pourquoi? Bah, attends, si, t'inquiète, tu vas jouer. Je dis, mais non, mais je... Il me dit, viens avec moi. Et donc, on y va. On arrive dans le bureau du directeur de production. Et mon copain dit, je suis désolé, ma grand-mère vient de mourir. Il m'avait pas prévenu. Il dit, ma grand-mère vient de mourir. Il faut que je parte tout de suite à Poitiers. Mais j'ai trouvé Arthur qui est en cours avec moi, qui va me remplacer. Il rentre dans le costume. Je faisais 40 centimètres de plus que lui. Et le mec, désolé, fait, bah, évidemment, je comprends. Bon, bah, Arthur, écoute, suis les autres, ils vont te driver. Et donc, j'ai joué dans Celui qui a dit non, avec des costumes vraiment, mais beaucoup trop courts. Et où tout le monde disait, va à gauche, va à droite, tiens, fais ça. Oui, tiens, bon, fais le sol là, gueule. Ah. Et c'était hyper drôle. Et il se trouve que Robert Hossein était là ce soir-là. Et après, il a félicité tout le monde en disant bravo, bravo. Et il est venu me voir, il fait « Ah, comme d'habitude, t'es vraiment parfait. » Ouais. Donc l'anecdote est quand même jolie.
C'est génial. C'est une belle rencontre, ouais. Finalement. Et on peut savoir, le copain, pourquoi il vous a mis dans
parce
un plan comme ça ?
Parce que sa grand-mère
était morte. Non, pas pour
faire un court-métrage.
Ah bah pour faire le court-métrage, c'est ça.
Vous n'écoutez pas les anecdotes ?
Non, j'écoute pas jusqu'à vous, pardon. On est toujours au début des années 2000 et Arthur, vous écoutiez. « C'est comme une lame, pointé comme un couteau, chauffé comme une femme et puissant comme un fusil d'assaut. » Ça fait longtemps aussi qu'on l'a pas entendu. Ragasonic, aiguisé comme une lame. Et de votre côté, Arthur Junior, vous débutez dans le début des années 2000 comme comédien. On vous retrouve dans le cours Le Jour de Grâce de Jérôme Salle.
Tout à fait.
Ouais.
Ouais.
Dans Meilleur Espoir Féminin, réalisé par Monsieur Junior aussi, qui va vous réinviter dans Monsieur Batignolles, Rose et Noir, C'est beau la vie quand on y pense, dans un certain nombre de collaborations. Comment le théâtre est venu à vous, plus spécifiquement ? On l'a dit, vous êtes à la tête de lieux de théâtre, vous êtes vraiment un des acteurs parisiens hyperactifs. On parle du théâtre des Béliers, on va parler de la programmation tout à l'heure. C'est, semble-t-il, un univers indispensable pour vous artistiquement ?
Oui, je crois que je tout d'un coup, en sortant de ces cours de théâtre, en ayant envie, j'ai une fascination de tous les théâtres. Même quand je suis en vacances à l'étranger, je vais aller visiter un théâtre. J'aime les projecteurs, j'aime la poussière, les câbles, j'aime comprendre comment ça fonctionne. Je suis moi-même un peu technicien, j'ai fait des régies de spectacles.
Enfin,
j'adore ça, je suis fasciné par le théâtre. Je suis bien quand je suis sur un plateau. Enfin, ça s'explique sûrement, mais donc oui, non, mais en tout cas, c'est sûr que je mais déjà à 20 ans, avec Castron, on faisait des quiz Pariscope, c'est-à-dire qu'on pouvait dire qui jouait dans quel spectacle.
Ah oui,
c'est-à-dire que on était des encyclopédies de spectacles.
Et comment vous faites quand vous jouez ? Vous trouvez le temps d'aller voir d'autres spectacles, de voir d'autres acteurs ?
C'est un peu compliqué, mais ouais. J'y vais. Alors maintenant, j'ai un petit garçon en plus, donc ma chérie, tout ça. Donc on est quand même sur un truc où je me fais
un peu... limite.
Et voilà, il faut trouver un peu de temps pour sa vie. Mais en tout cas, avant ça, je pouvais vraiment regarder un spectacle à 19h, aller jouer à 21h. Ouais. Là, post-confinement, après, j'ai joué 4 spectacles différents en tournée, puisqu'il y avait des reports. C'est-à-dire vraiment, le mardi, je joue un spectacle, mercredi, j'en joue un autre.
Vous avez dû être le plus malheureux du monde pendant le confinement, en fait.
Alors, oui, non, mais non, mais puisque j'ai aussi. On apprend que prendre le temps, c'est pas mal parfois. Ouais. Puis j'ai pu écrire beaucoup, c'est un truc que j'ai envie de faire et je trouve pas le temps de faire. Et là, j'ai été forcé de prendre le temps, donc j'ai été très prolixe et j'essaie maintenant de trouver du temps.
Prenez le temps d'aller voir Black Comedy au théâtre du Splendide du mercredi au dimanche avec Virginie Lemoine. J'ai parlé tout à l'heure de Laurent Richard, Anouk Vial, Bertrand Degrémont en antiquaire exceptionnel. De Rémi Roubaca et de nos invités Arthur Junior et de Mélanie Page. On continue d'en parler et on accueille tout de suite Didier Roche dans cette émission. Bonjour Didier, vous êtes serial entrepreneur, business angel, vous avez un CV assez incroyable, vous êtes fondateur de restaurants, spas et boutiques dans le noir et enfin président d'Éthique Connexion et vous avez perdu la vue à l'âge de 6 ans à la suite d'un accident. On aimerait parler aujourd'hui dans la bande originale de ça, d'être aveugle aujourd'hui en France, d'avoir accès à l'emploi et qu'on est aveugle ou malvoyant.
Oui, alors peut-être une petite précision, je suis cofondateur et non pas fondateur du groupe des restaurants et spas dans le noir, il y a Édouard Debreuil qui est le service de tech qui est avec moi.
Votre parcours à vous, Didier Roche.
Alors, j'ai perdu la vue à l'âge de 6 ans et demi par un accident. Et ensuite, j'ai été dans quelques mois après mon accident en internat. Un bonheur n'arrivant jamais seul. Et donc, séparé de ma famille, j'ai pu quand même, par chance, avoir cet internat. On est dans les années 75-80. Et donc, peu en fait d'enfants aveugles avaient accès à l'éducation et à l'école. Donc, j'ai eu cette chance-là tout de même, même si c'était difficile. Et donc, j'ai cheminé dans un milieu spécialisé jusqu'en seconde. Ou en classe de seconde, on est dans les années 87-88, se poser la question de mettre des élèves en milieu ordinaire.
Oui.
Et donc j'ai fait partie de cette génération qui a suivi ce qu'on appelle l'intégration. Et donc je suis revenu chez mes parents. Et en seconde, j'ai donc intégré un lycée où j'étais le premier handicapé à être dans ce lycée, sur la commune de Chartres. Et donc voilà, j'ai cheminé ensuite à la faculté et puis j'ai fini avec une maîtrise en intelligence artificielle. Mais disons que si un jour j'en manquais, je serais peut-être en programme.
Voilà. Vous avez créé des formations pour aveugles et malvoyants. Quels métiers sont accessibles? Est-ce que les entreprises sont prêtes à ça, à accueillir des personnes aveugles ou malvoyantes?
Oui, je pense qu'il n'y a pas d'opposition aujourd'hui de la part des entreprises dès lors qu'on peut les accompagner vers la bonne adaptation des environnements, la bonne adaptation des logiciels. Il faut s'assurer évidemment que tout soit accessible. C'est ça la problématique des fonds. Parce qu'évidemment, si vous m'embauchez en me disant ouais, « je veux Didier Roche, c'est un aveugle, en plus il passe sur la radio », si vous mettez au poste graphiste ou photographiste, ça ne va pas marcher. Quoi.
Oui.
On pourra faire ce qu'on veut, mais je ne piloterai pas des avions avant un bon moment. Voilà, il y a aussi cette réalité, hein, c'est l'inaccessibilité de fait.
Mais si
on faut bien accompagner, mais il n'y a pas d'opposition. Moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise. Vous avez parlé des petites connexions tout à l'heure. Donc, on aide beaucoup d'entreprises à intégrer des personnes handicapées et pas que les non-voyants. Et en fait, cette question d'accessibilité et aux locaux et aux postes de travail se pose. Donc, il faut faire un petit travail en amont. Mais dès lors qu'on a prévu et qu'on a tout envisagé, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Est-ce que c'est la même chose quand on est aveugle de naissance ou malvoyant de naissance ou quand ça intervient à un moment donné de la vie?
Alors évidemment, la vue, quand vous la perdez, eh bien, elle vous manque. Vous avez acquis des réflexes, des modes de fonctionnement qui sont des modes visuels. Et donc, la perdre en cours de vie, c'est beaucoup plus difficile, semble-t-il, que de ne pas l'avoir à la naissance. À la naissance, ben, en fait, on vit avec. Quand vous avez 6 ans et demi, et quand la perte de la vue intervient même plus tard, hein, si vous êtes adulte, c'est un vrai choc. Et il y a des moments de phase de déprime qui sont importants. Il faut voilà, se faire accompagner lorsque cela arrive. Il faut réapprendre à fonctionner autrement, notamment dans le monde professionnel. Moi, j'ai accompagné des personnes qui perdaient la vue vers 40-45 ans. Et c'est extrêmement compliqué parce que non seulement il y a un impact dans la vie professionnelle, mais il y a un impact dans la vie personnelle aussi. Donc, il n'est pas rare de voir le conjoint partir dans 75% des cas lorsque la personne voit un handicap sévère lui arriver.
Oui. Est-ce qu'on voit mieux, Didier Roche, les personnalités de nos interlocuteurs sont plus claires quand on ne voit pas? C'est un peu, quelque part, dans le propos de la pièce, c'est dire qu'on se révèle plus dans le noir qu'en pleine lumière. Est-ce que vous disiez tout à l'heure qu'en effet, un aveugle ne va pas devenir graphiste, vraisemblablement, mais pourquoi ne pas parler du handicap d'une autre façon, en voyant les choses qu'il y a en plus? Peut-être une sensibilité différente, une intuition? Qu'est-ce qu'on fait travailler davantage quand on ne voit pas?
Alors, inévitablement, on va compenser.
Oui.
Le fait de perdre un sens va développer normalement les autres sens. Non pas qu'on est plus capable d'entendre ou de sentir mieux, mais c'est un travail qui, par l'expérimentation, va faire que vous allez mieux entendre, ou être plus attentif en tout cas. Et donc, dans la voix, l'émotion passe, il n'y a pas de filtre. Dans la voix, donc, lorsqu'on est attentif, lorsqu'on est focalisé sur la voix que l'on reçoit, que l'on entend, le bruit que l'on entend, eh bien, on va pouvoir déceler des choses que, finalement, la personne qui voit ne va pas forcément conscientiser. Et donc, dans notamment des métiers tels que les métiers de vente à distance ou ce genre de choses, il n'est pas rare que l'on nous dise que les personnes non-voyantes ont une qualité d'écoute qui permet de mieux transformer la vente.
D'accord.
Lorsqu'on est dans le noir absolu, privé du regard, nous on le vit régulièrement au restaurant ou dans les spas, les gens se comportent différemment. Et même ce qui est très amusant, c'est que parfois au restaurant dans le noir, dans nos restaurants, on en a plusieurs en France, eh bien, les gens vont être à la même table et donc vont sympathiser. Ils ne se voient pas au début, donc ils s'installent au fur et à mesure du repas les uns avec les autres et ils discutent. Et une fois qu'ils sortent, dès qu'ils se voient à la lumière, ils se disent bonjour. Ça fait juste une heure et demie qu'ils mangent ensemble. Oui, l'impact du visuel est très fort, très très fort dans la société.
Merci Didier Roche d'être venu dans cette émission. Je rappelle, vous êtes le cofondateur des restaurants, spas et boutiques dans le noir. Merci à vous. Et dans la bande originale, tout de suite, c'est Jérémy Crédville, s'il vous plaît.
Ambiance, évidemment. Ah, bientôt le 14 février. Fête de l'amour en marronnier. Le cœur qui bat à la chamade. Ton corps qui tremble à balle. Devant l'être aimé, tu baves un peu. Pourtant, tu n'es pas amoureux. Tu es juste épileptique. Et oui, le 14 février, c'est comme chacun le sait,
la journée internationale de l'épilepsie. Mais si. Alors, l'épilepsie, c'est pas juste des crises convulsives spectaculaires qu'on pourrait confondre avec la tectonique. Ça se résume pas à des yeux qui se retournent en arrière sur des figures acrobatiques, non. L'épilepsie, disons que c'est comme une trentenaire par rapport à une vierge. C'est plus profond. Quoi ? Eh oui, mais bon, pour avoir un peu d'attention, il faut choquer maintenant. C'est la seule solution. Il y a des signes visibles, des tremblements, les membres rigides. Et là encore, je parle pas d'amour, mais bien d'épilepsie toujours. Et puis les signes peu visibles, voire invisibles. Des absences, Nagui, être groggy, des troubles de la mémoire, cerveau comme une passoire, difficulté de concentration, hallucination, visuelle ou auditive. Morgane, je t'aime, partout en Maldives. Comme un coup de foudre, plutôt fourbe, l'épilepsie se caractérise par des crises imprévisibles. En même temps, c'est rare que tu te dises « Tiens, lundi prochain, je me programmerai bien une crise, un petit breakdance à la Conta, ça met l'ambiance, ça défrise. » Non, le problème, c'est que les personnes épileptiques, comme elles passent souvent pour des mystiques, ben, cachent leur maladie, comme tu cacherais tes sentiments, finalement. Du coup, on les trouve lents, dans la lune constamment, pas concentrés, pas concernés, fous, aliénés. C'est pas volontaire, c'est juste que le cerveau se déconnecte de manière temporaire, comme s'il laissait l'autre sur un vu. Et ça, en amour comme au travail, c'est malvenu. Alors, les épileptiques font comme ceux qui restaient debout contre le mur pendant les booms au moment des slows. Ils s'isolent, se font discrets, en silence, endurent, restent toujours solo. Heureusement, sur la table, il y a des chamallows. Alors, comme l'amour, ça prévient pas l'épilepsie. L'épilepsie savent pas toujours comment prendre ça en charge. Surtout que ça peut t'arriver à tout âge. Comme l'amour. L'épileptique, on le voit comme un malade mental, voilà, qui convulse direct quand il passe devant des iguales. Mais il y a 50 syndromes épileptiques différents. Et comme par hasard, c'est que des trucs chiants. Le cupidon de l'épilepsie frappe toujours par surprise. 110 personnes par jour ont une première crise. Tu me diras, il y a quand même plus de crises de jalousie que d'épilepsie. D'ailleurs, la couleur de l'épilepsie, c'est le violet. Alors qu'en amour, on veut surtout pas en entendre parler de ce mot, violet. 10% de la population mondiale est susceptible. Ah bon ? Ah non, 10% de la population mondiale est susceptible d'avoir une crise au cours de sa vie. Ouais, ça a beaucoup plus de sens ici. Il y a deux sortes de crises. La crise focale, qui touche une partie du cerveau. Trouble auditif, olfactif, gustatif, qui ferait passer du sucre pour du veau. Trouble du langage, moteur, visuel. Regarde comme cette jeune femme est belle, alors que devant toi, c'est Fernandelle. Puis il y a les crises généralisées, qui touchent l'ensemble du cerveau. Des absences, t'es là Michel, coucou, hey oh. Des crises atoniques, tonico-cloniques, myocloniques, trop technique pour une chronique, pas du tout scientifique. Alors 50% des patients ont moins de 10 ans, oui parce que ça se soigne, mais un tiers des patients résistent aux médicaments. Moi aussi j'aime bien qu'on me résiste, ça met du piment. Mais là encore je confonds l'épilepsie et les sentiments. Si tu veux des infos pour tout ça, ce qu'il te reste à faire, c'est d'aller faire un tour sur www.epilepsie-france.fr.
Bravo Jérémy Crédil. On se retrouve samedi à Amiens, le 17 février à Cessin, le 18 à Bourg-lès-Valence, le 19 à Avignon. Et tout de suite, Tanguy Passureau, de quoi on va parler tout à l'heure ?
On parlera aujourd'hui des masques chirurgicaux. Une étude montre que les femmes sont plus attirées par les hommes masqués.
À tout de suite. C'est le retour de la bande originale avec Morgane Guérignan, Guillermo Guy, Jérémy Crédville, Daniel Morin, Tanguy Pastureau. Et nos invités sont restés, c'est Mélanie Page et Arthur Junior.
Merci, d'habitude ils se barrent tous.
Ouais, là oui, ils sont courageux et ils viennent nous parler d'une très belle pièce, Black Comedy, à voir au Théâtre du Splendide, l'histoire d'un artiste qui essaye un soir d'organiser chez lui une grande soirée en l'honneur d'un grand collectionneur dans l'espoir que ce dernier lui achète l'une de ses créations, mais il y a une panne de courant. Et forcément, c'est le début des ennuis. La coupure de courant, c'est vraiment dans un scénario très propice aux catastrophes, aux quiproquos, finalement. C'est un ressort...
Aux tueries.
Absolument, t'as raison, dans les films policiers. Mais... Ouais, absolument, les Agatha Christie ou les choses comme ça. Donc bon, là, on est sur de la comédie, c'est de la farce. Une farce que vous menez tambour battant dans un rythme assez incroyable, tous les deux. Mélanie Page, vous incarnez la nouvelle amoureuse de cet artiste un peu raté qui
j'avais quitté le plateau.
Cet artiste qui se cherche, qui est un peu, comment dire, il est un peu comment, il aime bien profiter des situations en fait, parce que là il est avec
un petit peu opportuniste.
Non, c'est une victime.
Beaucoup, un petit peu, très très opportuniste,
que ce soit avec les femmes ou avec tout le monde d'ailleurs.
Mais il fait un peu moins le malin face à un seul personnage. C'est le personnage du paternel, le commandant, ouais. Mélanie.
Ah oui, je crois que mon père lui fait très peur. faut dire qu'il est assez impressionnant. Et effectivement, il essaye de faire bonne impression tout en ayant d'autres choses à régler en même temps. Il y a une pression, quoi, de plaire au père, et tout en étant, à mon avis, pas en adéquation avec des idées de oui. militaire.
Oui, c'est ça. Et on a un militaire un petit peu spécial, quand même.
La fanfare. Ça, c'est toute mon enfance, comme je dis dans ma pièce. J'ai été éduquée à ça. Je danse là-dessus.
Aux marches militaires. De ce cobra, c'est un peu comme ça qu'on le surnomme, ouais. Qui n'a pas dans le noir sa main dans ses poches. On va le dire comme ça. Il a la main baladeuse, hein, un petit peu.
En plus, oui, c'est
bah
vrai.
Oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, cette coupure d'électricité, ça peut être un fléau dans un premier temps ouais. pour tous ces personnages réunis dans cet appartement, mais ça peut être une aubaine parce que puisque l'artiste que vous êtes, Arthur, ça lui permet de.
Ben, c'est vrai que s'il n'y avait pas cette coupure, en fait, si on prend la pièce et qu'il n'y avait pas la coupure d'électricité, le voisin arriverait, il verrait ses meubles,
ça
et il y aurait un pugilat au bout de 7 secondes. Donc, cette coupure est une catastrophe pour cet artiste qui veut recevoir ce mécène, mais grâce à cette coupure, il va quand même pouvoir continuer
un petit temps
à essayer de survivre.
Essayer de cacher voilà. le méfait.
C'est comme on échoue sur un bateau, puis on a un canoë, une bouée de sauvetage, un petit radeau. Voilà. Donc voilà, au début c'est plutôt pas mal, et puis après petit à petit, on va couler quand même. Quoi.
Et pour d'autres personnages, c'est du pain béni, Black Comedy. Sur scène, une farce de Peter Schaeffer avec Mélanie Page, Arthur Junior, nos invités, Virginie Lemoine et toute une belle et joyeuse troupe. On vous incite à aller le voir et tout de suite dans la bande originale. Lui aussi, il faut aller le voir sur scène. C'est Tanguy Pasturon.
Je suis à la pointe en matière de numérique. J'ai une page Facebook, un Instagram, un compte Twitter, un compte TikTok. Ce qui ne sert à rien parce que les gens, quel que soit le support, écrivent toujours la même chose. On t'aime. Alors bien sûr, tout cet amour est un peu lourd à porter. Bonjour la charge mentale, j'en peux plus. Parfois j'ai envie de dire donnez-en à Anne Hidalgo, la pauvre. Seulement il y a 2-3 jours, sous une de mes chroniques, un certain Jean Seb a écrit, je cite, « Allez, on met bien les masques, bande de collabos. » Un collabo, c'est l'insulte à la mode. On le dit plus maintenant qu'en 42. Parce que c'est moins dangereux. En 42, traiter un collabo de collabo, ça signifie qu'on finissait dans une cave avec le collabo et ses outils. En gros, les mêmes que chez le dentiste, il avait pété un câble et n'arrivait plus à distinguer la bouche du reste du corps. Mais maintenant qu'on traite de collabo des gens de radio, physique, flasque, le risque est nul. Il faudrait qu'on embauche à Inter David Douillet, Gérard Larcher, Mokhtar, l'agent de sécurité de TPMP, pour voir si les gens leur parleraient pareil. Mais moi, Pasturo, avec mon physique de brindille, combien de fois m'a-t-on confondu avec Kate Moss ? Il fallait le voir, Pete Doherty, en 2006, me regarder le matin dans son lit, perplexe, en disant « Who the fuck are you ?» Mais c'est facile de me clasher. Je veux dire, qu'est-ce que je vais faire ? Une chronique ? Ouah, la menace, quoi. Une chronique n'a aucun impact. Je sais que certains humoristes pensent être subversifs, avec des messages. Mais ceux qui tiennent les rênes ne les connaissent même pas. Macron, la seule comique qu'ils connaissent, c'est Marlène Schiappa. Je veux dire, la chronique, c'est comme le sexe. Ça dure 3 minutes, 5 quand c'est moi. Et un quart d'heure plus tard, la personne est passée à autre chose. C'est ce que j'ai répondu l'autre jour au Baudins. Quand ils m'ont dit, notre but, c'est vraiment de changer la filière agricole en profondeur. Mais je leur ai dit, mais chacun sa place. Le porc, sa place, c'est pas sur scène. C'est à la ferme. L'éthique de Fort Boyard, c'est dans la savane. Affidavit en heure, c'est dans le néant. Donc Jean Seb a écrit sur ma page « On met bien les masques, bande de collabos » tout en majuscule pour appuyer son propos parce que Jean Seb est fier de lui. Il doit être en slip derrière son PC, mais il se prend pour Jean Moulin. Et là, j'ai réfléchi, mon front s'est plissé. J'étais devant un miroir, je me suis dit « Il va être temps de te mettre au Botox, il fait comment Jacques Weber ?» Et je me suis dit, c'est vrai, le Covid est en bout de course. Sur les plateaux télé, il n'y a plus un médecin. Hier, Martin Blachy, au feu rouge, a fait mon pare-brise en me disant une petite pièce pour manger. Et nous, on est là, toujours avec sur la gueule, le calbut des Schtroumpfs. J'ai à RTL, ils n'ont plus de masque. Dans Planète Rap sur Sky, non plus. Même Francis Zégut n'en a pas. Bon, il a des poils qui font office de masque. Il lui recouvre intégralement le visage. C'est le seul à se prendre des amendes pour port de la burqa, alors qu'il dehors à la cool, en train de réparer sa bécane en t-shirt ACDC. Et nous, parce qu'on est le service public, on doit montrer l'exemple. Sinon, il y a Olivier Véran en personne qui nous attend à la sortie avec la quatrième dose et qui nous l'inocule. Ce qui, contrairement à son paronyme, ne fait mal qu'au bras gauche. Voilà. Non, c'était une blague pour les littéraires un peu chauds. C'est une niche, mais il n'y a aucune raison que seule Blanche Gardin profite de ce public. Donc on est là avec nos masques, on galère. Moi, quand Daniel me fait des bisous de loin, je ne les vois même plus. Je me dis, voilà qui joue les hétéros, mon Dany. Mais bon, l'avantage, c'est que ça cache la moitié de la face. Et ça, c'est super. Parce qu'on est d'accord que le bas des visages des gens, globalement, est dégueulasse.
Ah là là, on a tous vécu ça. Leïla, ce petit stagiaire à qui vous avez demandé un peu trop tard son âge. Mais on ne voyait que ses yeux, sublimes. Oui. Mais lui, comme les autres, dès qu'on retire nos masques, ah, quelle horreur. La plupart des gens ont des bouches et des mentons qui ne correspondent pas du tout au haut du visage. On a la même vie que les cordons bleus, le gaulois. Une fois déballé, on n'est jamais aussi beau que ce qu'on attendait. D'ailleurs, des chercheurs de l'université de Cardiff. Cardiff, vous voyez Toulon.
Ouais.
Bon, bah, c'est loin. Ces chercheurs ont fait une étude. Alors, ils ont pris un groupe d'hommes, certains masqués, les collabos, et d'autres non masqués, les résistants, bon, selon la version de Jean-Seb, et ont demandé à 43 femmes de dire lesquelles étaient les plus attractives. Ah, et bien, les femmes ont systématiquement désigné les hommes masqués. Donc, mon conseil aux mecs est, ne vous lavez plus les dents. Je veux dire, même sans masque, vous serez jugé sur quoi? Les yeux, le front, donc misez tout là-dessus. Votre front, mais passez-le à la peau de chamois. Au pire, si à force de frotter, vous ressemblez à une 206 turbo, vous pouvez vous taper Sébastien Loeb. Alors, attention, il y a une explication, bien sûr, psychologique à ça. Les chercheurs le disent, en se focalisant sur les yeux, le cerveau comble les lacunes et exagère l'impact global. En gros, on se dit, oh, quel menton il doit avoir. Et là, le type retire son masque et c'est le dernier mec du barin à porter le bouc. Hein, alors qu'il avait des yeux splendides, quoi. Les mêmes qu'Arlette Chabot si elle avait des yeux splendides. En gros, plus quelqu'un se masque, plus l'imagination prend le relais. Imaginez l'état des talibans. Je veux dire, ils mettent tout le linge de la semaine sur leur femme. Et ils doivent se dire ce soir, je retrouve ma louloute, elle est belle, c'est Laurent Delahousse avec des boobs. Oh, je kiffe. Et le soir venu, paf, ils ont le sosie de Jean-Yves Le Drian après son décès. Je veux dire, donc forcément, déception. Déception, pourquoi? Parce que l'imagination est toujours plus forte que le réel. Toujours. Donc gardez tous vos masques et tais-toi, Jean-Seb.
Bravo. Bravo, Tanguy Pasturo.
Et Tanguy qui sera en février à Marseille, à Saint-Nary-sur-Mer, à Montpellier. Si vous voulez les dates, cherchez-les, ça se mérite.
Pour une pièce comme Black Comedy, une comédie comme ça, une farce comme ça, où on rit vraiment du début à la fin, vous ne pouvez pas regarder vraiment le public. Vous nous voyez, on est masqué, on est là. Est-ce que vous le voyez, ça, finalement?
De toute façon, on voit
mais de
jamais.
Temps en temps, on peut jeter des petits coups d'œil, mais vous, par votre jeu, le fait de devoir jouer prétendument dans le noir...
Je me suis fait la réflexion hier. Je vois plus le public que d'habitude. Parce qu'en fait, d'habitude, on est tellement dans le regard des autres, de nos partenaires...
Ouais.
Qu'on oublie complètement le public. Et là, comme on est tout le temps en fuite de ces regards-là, en fait, je me surprends à regarder plus vers la salle et finalement, parfois à choper, mais j'essaye évidemment de ne pas rester sur eux pour pas qu'ils le sentent, mais parfois à choper quelques regards du public. Je sais pas si c'est très
désarçonnant parce que le problème, c'est qu'on tombe toujours sur le bec. Qui parle à sa femme, qui fait, c'est-à-dire qu'on est toujours attiré par celui qui nous écoute.
Oui, bah oui.
C'est-à-dire quelqu'un qui nous écoute et qui est passionné. Bon, c'est normal, donc on le regarde pas. En revanche, le mec qui regarde sa montre, qui regarde son téléphone, qui regarde sa, là, on se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait? La problématique, c'est qu'aussi, on a un décor avec un fond relativement clair. Donc, en fait, les projecteurs font réflecteurs. Oui. Donc, en fait,
c'est
là,
vrai qu'on voit,
dans ce spectacle, on voit beaucoup le public de notre point de vue.
Ouais.
Et puis, il y a des soirs avec fou rire. Il y a des soirs avec des événements inattendus, avec des accidents, avec des téléphones, par exemple, le fil du téléphone qui cède.
Ah, ça, oui.
On n'a pas eu encore de gros fou rire. On est encore en concentration.
Mais
c'est
en fait, je pense que pour avoir un fou rire, en fait, il faut se regarder. Je sais pas si on aura vraiment des fou rires. Et je me suis fait la réflexion aussi. Je pense pas que ça va nous arriver parce que quand, en fait, ce qui crée le fou rire, c'est de se regarder et de sentir dans l'œil de l'autre qui frise et de se dire, oh putain. Oui.
Et d'ailleurs, pour sortir d'un fou rire,
il faut arrêter de se regarder. Exactement.
Et d'ailleurs, quand le téléphone, l'incident du téléphone est arrivé, vous n'avez pas regardé vos partenaires. Vous avez regardé le public. Vous avez pris à partie le public ce soir-là.
Un petit peu.
Ouais.
Il y a un fil qui le téléphone s'est arraché. Tu ne sais là qu'un téléphone et le truc s'est arraché. Donc. Ouais. J'ai parlé comme si j'ai dit écoutez ce téléphone on va le réparer parce que sinon de toute façon on ne peut pas
c'est à dire qu'il y avait 2-3 gars qui ne pouvaient pas se faire avec le téléphone cassé
il a pensé
à ce qui allait se passer
à la suite
plus tard.
Oui parce que ce téléphone on en a
mais
besoin
moi, j'ai beaucoup joué c'est vrai que j'ai une analyse assez bonne une porte qui est pas fermée qu'il faut que j'aille ouvrir d'un accessoire qui est cassé je me dis alors ça le problème c'est que dans 10 pages j'en ai besoin
c'est ça, exactement.
donc je suis assez à l'aise avec ça donc
Tu es à l'aise avec ton corps. Tu m'as dit ça pendant toute la répétition.
Avec mon corps.
J'ai une
parfaite maîtrise de mon corps.
Une parfaite maîtrise de son corps.
C'est le fauteuil massant. Je vais pas le faire mal.
Ça et les pralines, ça va pas marcher. C'est désespéré.
C'est fou. C'est quand même deux arguments.
On a toujours pas compris.
C'est quand même deux gros arguments. Enfin, pour le coup. Donc, voilà. Black Comedy au théâtre du Splendide avec Laurent Richard, Anouk Vial, Bertrand Degrémont qui a, je le vois, participé à l'adaptation française avec Camilla Barnes.
Il l'a fait à deux avec Camilla Barnes.
Ouais, il y a eu beaucoup de modifications par rapport à... Parce que, bon, vous l'avez dit, la période, et vous le jouez clairement, on est dans le passé puisqu'il y a ce téléphone fixe
à
cadran voilà, avec lequel on pouvait téléphoner quand on était enfant, par exemple, hein, qu'on revoit dans nos maisons, dans la maison de nos parents, en tout cas. Mais qu'est-ce que vous avez dû changer d'autre? Il y a des références, parce que les noms, oui. Le nom, par exemple, du personnage de Virginie Lemoine, il est clairement britannique. Ça, oui. Vous ne l'avez pas modifié.
En fait, au départ, dans leur adaptation, ils avaient tout gardé. En fait, ça se passait carrément en Angleterre. Et je crois que c'était l'idée d'Arthur de pour que les gens se sentent peut-être plus concernés, ouais. Et que ça parle plus au public français, de ne garder que le personnage de la voisine qui est anglaise et sinon de nous franciser et que ça se passe à Paris, passage Le Pic.
Oui, passage Le Pic.
Voilà, parce que c'est vrai que finalement l'idée de le garder en Angleterre n'était pas forcément, enfin ça changeait pas grand-chose à la pièce. Et ça nous apportait pas grand chose alors que de voilà.
Mais la comédie c'est des références aussi, donc quelque chose qui va faire rire un Anglais en Angleterre avec sa référence à une certaine époque. Ce qui est important c'est de pas perdre le spectateur. Déjà que la pièce est un peu compliquée. Enfin voilà, donc on l'a simplifiée pour être au maximum dans l'histoire, la dramaturgie et donc la comédie.
Alors n'ayez crainte, la pièce à voir, elle est pas compliquée du tout à comprendre. Là peut-être que en vous parlant du noir, de la lumière.
On peut expliquer pour Guillermo.
Du noir, de la lumière. Mais on va y retourner ensemble, je t'emmènerai avec moi. Voilà pour l'événement théâtre du moment, c'est Black Comedy au Théâtre du Splendide. D'autres événements culturels.
Oh oui.
Quelques questions. Une sportive française va avoir droit à son biopic. De qui s'agit-il,
Laura
d'après
Flessel.
Vous Non, pas Laura Flessel.
Sur Jeannie Longo.
Ni Jeannie Longo, Jeannie, je ne sais pas si j'ai entendu tout le monde.
Sur Bonaly.
Bonaly non plus.
Manon Dos, un peu tôt.
Non plus.
Elle est vivante.
Elle est vivante.
Marie-José Pérec.
On parle d'un sport où les femmes commencent maintenant à montrer un petit peu. Ouais, absolument.
Marinette Pichon. Ah.
Marinette Pichon. Vous connaissez Marinette Pichon, une pionnière du football féminin. Ouais. Elle est consultante. Aujourd'hui, elle est installée au Québec. Sa vie va.
Marinette.
Oui, Marinette,
c'est incroyable sa comme vie. Nom. Marinette Pichon, vraiment,
ça ne s'invente pas.
C'est joli.
Je crois qu'elle est française.
Sa vie va être adaptée en film par la réalisatrice Virginie Verrier. Ça sera Garance Marillier qui va l'incarner. Vous vous souvenez, on l'avait vu dans Grave de Julia Ducorneau. Et dans Titane également. Et c'est Émilie Dequesne qui va jouer la mère de la sportive. Fred Testo au casting. Sylvie Testu également pour incarner ses coachs. Absolument, c'est pas moi. C'est peut-être un argument de promo.
Non, mais en tout cas, autre chose quand même. Sinon, c'est pauvre.
Est-ce que les tissus sont sur un bateau?
Tout ça pour vous demander, est-ce que vous aimez le sport? Est-ce que vous suivez le sport?
J'aime bien ça, oui. J'aime bien je suivre ou faire.
Suivre ou faire.
Suivre faire. Alors j'aime beaucoup le beach volley avec un mojito. C'est vraiment mon sport de passion
ça,
absolue.
Mais beaucoup plus de mojito que de beach volley.
Non. Beaucoup de beach volley, mais c'est un sport qui est compliqué à faire partout.
Il est très à l'aise avec son corps en plus.
Et évidemment.
Bien sûr. Et voilà. Non, il a une maîtrise.
Surtout avec un mojito. Mais tu es pas à l'aise. J'ai une
parfaite maîtrise. Parfaite maîtrise. Vous, Mélanie.
Rentrer dans le petit maillot.
Si je vous parle de sport en tant que spectatrice, notamment.
Oui, effectivement, je regarde pas mal de foot. Alors, j'allais dire dû aussi à mon mari, mais non, en fait, j'ai toujours regardé le foot. Déjà, mon père était quand même journaliste sportif. Donc, on regardait beaucoup de tennis à la maison, ce qu'il faisait surtout le tennis. Et le foot, parce qu'il est, enfin, il adore tous les sports. Et puis, tous les fiancés que j'ai eus adoraient le foot. Donc, j'ai toujours regardé beaucoup de football. Et évidemment...
Ça serait impossible de vivre avec un homme qui n'aime pas le foot.
Je sais pas, du coup, je ne connais pas. Mais non, j'adore ça.
Au théâtre, on voit peu de pièces sur le sport. Il y en a quelques-unes. Est-ce que c'est un thème comme ça qui fait un peu peur aux dramaturges?
Non, mais c'est vrai qu'on s'est posé la question, parce que moi j'aime beaucoup le foot aussi, et c'est vrai que tout d'un coup, on se dit que le public théâtreux, a priori, va pas être intéressé par le foot, et le public de foot va pas être très intéressé par le théâtre. on est, voilà, on est a priori pas sur des...
Alors qu'il y a de très très belles pièces, par exemple, j'avais vu une pièce de cet auteur, Mohamed El-Khebtib, par exemple, qui avait fait aussi une pièce sur Saint-Étienne, sur le foot, oui. Est-ce que ça draine en fait? Parce qu'il y a le foot, mais il y a aussi toutes les grandes communautés qui peuvent être là derrière à supporter.
Mais il n'y a pas beaucoup, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de choses autour de ça, mais bon, je... Dans le subventionner un peu plus, parce que justement on parle du côté social, c'est vrai que on a un théâtre à Lens, on est obligé de parler des voilà, ça fait tellement partie de la vie que c'est...
Et il y avait du Solier qui avait fait aussi les athlètes dans leur tête. Autre question. Quelle star mondiale expose actuellement ses aquarelles à Londres?
Stallone.
Non. C'est pas quelqu'un qui est ici du monde de la culture, a priori. On le connaît mondialement, mais pour autre chose.
C'est pas Adolphe.
C'est pas Clinton.
Non, lui.
C'est un Britannique.
Politique?
Non.
Ah, pas politique. Enfin,
David Beckham.
Non, pas politique. Oui et non politique. Mais on va dire.
Un sportif?
Reine,
Hugh Grant.
Il a dit la reine, c'est
le
pas loin.
Le prince?
Ah, une princesse.
Le Charlie.
Le Corgi. C'est Charles.
Ah, oui.
Le prince Charles, absolument.
Le futur roi.
Il expose ses aquarelles jusqu'au 14 février, si vous avez envie d'y aller. On va voyager à travers ses aquarelles et découvrir ainsi tous les paysages qu'il a décidé.
On va annuler cette semaine. On va aller
tous les paysages qu'il a décidé d'immortaliser, que ce soit Saint-Moritz en Suisse, le château du Barou dans le sud de la France. Ah, bon, bref. Il y a pas mal de paysages. Qu'est-ce que vous avez de plus anglais, vous, Mélanie? On parle de Peter Schaeffer, de cette pièce, de ce Britannique, du prince Charles, de vous qui êtes anglaise aussi.
Déjà, c'est difficile à
assumer en
France. Cet
accent, déjà, quand elle parle français.
Bien sûr, voilà, déjà, je cherche mes mots. J'adore la famille royale.
C'est une perruque anglaise.
Je ne sais pas ce que tu as avec mes cheveux, toi, depuis le début. J'adore la famille royale. C'est comme ça, ça me fascine. Depuis toute petite, j'ai vu le mariage de Lady Di et de Charles. Donc ça, c'est mon côté peut-être assez anglais.
Et puis, alimentairement, il y a un truc. Charlotte Gainsbourg nous disait qu'elle adorait
le marmite. Alors, je suis pas très marmite. Jamais... En revanche, les baked beans... Je dois avouer que
les haricots rouges,
c'est les haricots à la sauce tomate
au petit déjeuner.
C'est pas ce qu'ils ont fait de mieux.
J'adore ça, mais c'est une petite madeleine de Proust.
Les digestifs, c'est très bon.
Ah oui, les petits gâteaux là.
Le trifle aussi, le trifle, c'est formidable.
Le
trifle.
Ah, trifle.
Ah ouais, trifle.
Yummy.
Le trifle, quoi.
Yummy. Ouais.
C'est un bon dessert.
Tu as éveillé une sensation
intéressante. Comme la musicale.
Et le golden syrup. Golden syrup, c'est une espèce de caramel liquide.
Comme un sirop d'érable?
Ouais. Il faut le goûter.
D'accord.
Allez chez M et voilà.
Qu'est-ce qui vous attend dans les jours et les semaines qui viennent côté projet en quelques mots rapidement, Mélanie Page?
Alors, j'ai une nouvelle pièce que j'ai commencé à répéter en avril, qui se jouera à Avignon, mise en scène par Christophe Lidon. Et j'ai hâte, c'est la première fois que je vais faire le Festival d'Avignon.
Et puis une série aussi bientôt?
Il y a Valkyrie, et puis la saison 2 de l'École de la vie, on espère.
Et vous, Arthur, j'ai dit qu'on évoquerait le Théâtre des Béliers parisiens avec en ce moment à l'affiche Le Porteur d'Histoire, La Course des Géants, Nos Limites aussi, voilà trois pièces à l'affiche. Et vous, en tant qu'acteur, metteur en scène, qu'est-ce qui vous attend aussi bientôt?
On est début de cette aventure, mais déjà j'accueille Guillermo Guise quand même au mois de juin.
Et ça, il va falloir faire attention à la régie,
Je prépare déjà l'accueil, c'est quand même...
Notamment, préparez bien, parce que franchement, il va vous saloper tout ça. C'était un bonheur, j'ai dit ça. Moi, j'ai rien dit du tout.
Ce qu'on pense, il est très propre. Les loges ont été...
Il a été sevré, peut-être.
On a beaucoup travaillé.
Merci à tous les deux. Je rappelle, Black Comedy au Théâtre du Splendide. C'était un plaisir de vous avoir. On a des excuses à vous présenter rapidement, Daniel.
Les amis, déjà désolé pour le CSA qui a reçu ce matin 17 213 alertes déontologie suite à l'émission dont un des invités était lié à un membre de la banque. Doucement, c'est recevoir Arthur Junior, le futur employeur de Guillermo, ça pose problème. Qu'est-ce qui va se passer quand bientôt on va recevoir Amanda Lear, mon épouse? Désolé pour Guillermo qui m'a confié à la pause qu'il n'avait toujours pas compris le principe de la pièce. Alors Mélanie Arthur, je sais, c'est hyper gênant. Si vous pouviez dans l'ascenseur expliquer une troisième fois à Guillermo le principe du noir, mais on voit quand même, ce serait sympa.
C'est horrible.
Désolé pour Lulu la Chouquette, Toto la Tartiche, Zizi Pomme d'Amour et toutes les boutiques qui n'ont pas été citées par Arthur Junior. Alors il n'est pas contre, hein. Il veut juste du pognon. Désolé enfin pour tous les auditeurs qui voulaient régler leur montre en écoutant France Inter et qui vers 12h ont entendu Leïla.
Vous êtes bien sur France Inter, il est midi, passé.
Yeah, oui, oui, oui. L'auditeur qui cherche désespérément sur leur montre le chiffre qui correspond à midi.
Il est nagui. J'ai dit, il est nagui.
C'est pas passé.
Il est nagui. Merci beaucoup Mélanie Page et Arthur Junio pour votre bonne humeur et allez passer un très beau moment en les applaudissant sur scène dans Black Comedy.
Vous
allez
passer,
vous allez beaucoup rire. Vous allez beaucoup rire. Merci à la bande aussi réunie autour de moi. Demain, on se retrouve avec Nagui et Anne Charrier qui sera notre invitée pour nous parler aussi de théâtre.